Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
50 ans après, qu'est-ce qu'il reste du rêve indépendantiste des Biafrais ?
Alors, chez les Ibos, qui sont majoritaires dans ce qu'on a appelé le Biafra, il reste effectivement l'image à la fois d'un traumatisme, parce que beaucoup de gens sont morts essentiellement du fait de la famine, un sentiment de persécution qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et en même temps un souvenir glorieux d'un passé avec une république indépendante qui voulait innover en Afrique subsaharienne.
Ce mardi, les deux principaux mouvements indépendantistes de la région appellent à une journée ville morte, mais est-ce qu'ils sont suivis par la population ?
Pas tellement par les milieux commerçants qui souffrent énormément de ces manifestations qui entravent les flux commerciaux. Il y a un sentiment partagé que les Ibos sont exclus du pouvoir depuis qu'ils ont perdu la guerre du Biafra en 70. Les Ibos ont regagné un peu de terrain au sein de l'armée nigériane, mais en revanche, c'est vrai qu'au niveau de la présidence, ils ont le sentiment d'être systématiquement exclus, de ne pas pouvoir présenter de candidat au présidentiel. De là à comparer la situation aujourd'hui à celle qui prévalait au sortir des pogroms monstrueux de 1966, qui en fait avait amené les Ibos à revenir dans leur région d'origine et à proclamer l'indépendance. Vraiment, là, il n'y a pas de commune mesure. Là, aujourd'hui, on est au sein d'une démocratie parlementaire. Les Ibos ont quand même d'autres moyens pour faire valoir leurs intérêts au sein du gouvernement fédéral nigérian. Il y a quand même des canaux qui permettent de faire remonter leurs revendications autrement que par la violence.
L'année dernière, après l'arrestation du chef indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, des émeutes ont éclaté, notamment à Aba et Onitsha. Est-ce que la répression de ces émeutes a fait plusieurs dizaines de morts, comme le dit Amnesty International ?
Oui, indéniablement. On le sait bien, malheureusement, et ça vaut aussi pour Boko Haram, ce que l'armée et la police nigériane savent très bien faire, c'est tirer dans le tas. Donc il y a beaucoup de non-combattants qui sont tués, et bon, des dizaines de morts, oui, indéniablement. Heureusement, on n'est pas encore sur les niveaux qu'on avait pu voir avec les pogroms de 1966, hein, qui avait fait 66 000 morts en 2-3 semaines. C'était absolument effrayant. Donc vraiment, on en est fort heureusement très très loin.
Nnamdi Kanu, le leader indépendantiste, a été arrêté il y a 18 mois. Il a été libéré il y a un mois. Est-ce à dire que le régime du président Buhari ne sait plus très bien quelle attitude adopter à son égard ?
À mon avis, il a été relâché justement dans la perspective du cinquantenaire de l'indépendance du Biafra, pour essayer un peu de calmer le jeu. Donc je pense que c'est une attitude plutôt intelligente. On se demande pourquoi le gouvernement ne fait pas la même chose en ce qui concerne le leader des chiites du nord-ouest du Nigeria, Zakzaki, qui en revanche est toujours en prison depuis plus de 2 ans, et malgré des injonctions de la Cour suprême qui demande sa libération, parce qu'il n'est pas jugé. Donc on voit que le gouvernement est finalement beaucoup plus ferme, bien que Buhari soit lui-même un musulman, avec des groupes pseudo-djihadistes de type Boko Haram ou bien les chiites, que finalement avec les Biafrais, où là, les Ibos, lors des dernières présidentielles, n'ont pas voté du tout pour Buhari. Hein. C'est vraiment un bloc régional là assez fort, et ce qui en fait renforce son sentiment aussi d'exclusion du jeu politique face à un président qui est perçu, lui, comme représentant les intérêts des musulmans du Nord.
Est-ce que de nombreux Biafrais continuent de rêver à un référendum d'autodétermination, et est-ce que ce rêve n'est pas un peu illusoire face à la puissance de l'État central ?
En fait, je ne crois pas que beaucoup d'Ibos rêvent à une nouvelle indépendance, puisque les Ibos sont d'excellents commerçants et ils ont plus intérêt à avoir un marché commun nigérian de 36 États fédérés avec qui commercer, plutôt que d'avoir une république indépendante qui se retrouverait finalement exclue d'une union douanière et finalement se retirer de cette première économie du continent. Les commerçants Ibos n'y ont pas intérêt. Donc je crois qu'on est plutôt dans une illusion. On veut évoquer un passé glorieux pour revendiquer davantage de droits politiques, mais de là à basculer jusque dans l'indépendance, je crois que notamment les milieux commerçants Ibo n'y sont pas du tout favorables.
À l'époque de la guerre du Biafra, la région pétrolifère du delta du fleuve Niger faisait partie du Biafra dit indépendant. Mais aujourd'hui, quelle est l'attitude des groupes rebelles du delta ?
Alors ce qu'il faut voir, c'est que pendant la guerre d'indépendance du Biafra, en fait, les populations de la côte, où se trouvent les zones pétrolifères dans le delta du fleuve Niger, n'étaient pas favorables à l'indépendance, elles. Donc elles ont tout de suite rejoint le camp fédéral et elles se sont plutôt battues contre les Ibo, qui leur ont d'ailleurs énormément voulu. Donc aujourd'hui, on va dire qu'entre l'IPOB ou le MASOP et puis les mouvements rebelles des zones du Delta, il y a un ennemi commun, le pouvoir central, l'État fédéral à Abuja. En revanche, il n'y a pas d'agenda politique commun. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les populations de la côte, notamment les Ijo, qui sont dominants dans le Delta du Niger, ne seraient prêts à aller se battre avec les Ibo pour une indépendance du Biafra.
Quand on regarde regarde une carte du Nigeria d'aujourd'hui, on ne voit pas le mot Biafra. Pourquoi ?
Alors, quelquefois, on fait encore mention du golfe du Biafra, mais effectivement, ça réveille de mauvais souvenirs. Donc, au sortir de la défaite biafraise en 1970, ça s'est conjugué avec un boom pétrolier, notamment avec la première crise pétrolière de 1973. Et avec l'argent du pétrole, l'État central s'était forcé, justement, à la fois de reconstruire des régions ravagées par le conflit et vraiment de faire oublier cette histoire du Biafra. Donc, le nom a été soigneusement gommé pour justement essayer de forger une unité nationale, en l'occurrence autour d'une manne pétrolière assez mal gérée, ce qui a été aussi une autre source de conflits, y compris jusqu'à aujourd'hui dans les zones pétrolifères du Delta, même si encore une fois, ces conflits autour de la production pétrolière ne réunifient pas les populations de la côte avec les Igbo, l'Interland et de l'ancien Biafra.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci.